Chapitre 16. Lorsqu'il entra dans sa chambre, Richard fut ravi de voir une cuvette et un broc d'eau fraîche trôner sur la petite commode. Il ne pourrait pas prendre un bain, mais faire un brin de toilette serait agréable. Il ferma le verrou, s'enfermant dans la pièce, même s'il se sentait en parfaite sécurité dans la petite auberge d'Ishak. Kara occupait la chambre attenante et Nietzsche était logé à un étage plus bas, au rez-de-chaussée. Proche de l'entrée, sa porte était juste en face de la cage d'escalier. Des hommes montaient la garde dans l'établissement devant le portail et dans les rues environnantes. Richard trouvait ses précautions superflues, mais Victor et ses petits gars avaient insisté. Quand des troupes ennemies approchaient, on ne devait pas négliger la sécurité d'un homme comme le sourcier. Richard avait fini par capituler, secrètement soulagé d'avoir devant lui une nuit de sommeil paisible et profond. La fatigue lui coupait les jambes, et il avait mal partout après une longue journée de marche sur un terrain difficile. Ultime épreuve à négocier, son discours sur l'esplanade de la liberté, une réussite mais un effort émotionnel violent, l'avait vidé de ses dernières forces. Richard posa son sac au pied du lit, approcha de la commode, plongea les mains dans la cuvette et s'aspergea le visage. Bon sang ! Ce qu'un peu d'eau pouvait faire du bien dans certaines circonstances. Avant de monter se coucher, il avait pris un rapide repas avec Nietzsche et Kara. Le ragoût d'agneau qu'ils avaient dégusté dans la petite salle à manger était des plus convenables. Jamila, la gérante engagée par Ishak, une autre associée, avait été priée de traiter royalement ces trois clients-là. Du coup, elle leur avait proposé de cuisiner tout ce qu'ils voudraient. Richard n'avait pas voulu la déranger plus que de raison. De plus, le reste de ragoût serait vite réchauffé, faisant gagner du temps aux trois voyageurs qui avaient hâte d'aller s'allonger. Jamila avait été déçue de ne pas pouvoir faire profiter le seigneur Ral de ses talents culinaires. Avec ce qu'il avait dû ingurgiter ces derniers jours, le ragoût accompagné de bains frais et de beurre onctueux avait eu des allures de festin. Malgré ses soucis, Richard l'avait vraiment apprécié. Et il regrettait de ne pas avoir eu l'esprit plus ouvert à la gastronomie, car Jamila était vraiment un cordon bleu. Conscient que Kara et Nietzsche avaient autant besoin de repos que lui, Richard avait insisté pour qu'elles prennent chacune une chambre. Comme il s'en doutait, toutes les deux auraient préféré partager la sienne afin de veiller sur lui. Refusant qu'elle passe la nuit à monter la garde au pied de son lit et devant sa porte, il avait tenu un long discours sur la sécurité qu'offrait l'auberge. Avec le nombre d'hommes qui patrouillaient un peu partout, que pouvait-il risquer au premier étage? Reconnaissant qu'elle deviendrait plus utile une fois reposée, les deux femmes s'étaient rendues à ses raisons, mais pas de gaieté de cœur. « Quand on pouvait se payer le luxe de ne pas monter la garde, avait martelé Richard, il fallait en profiter parce que de pareilles occasions ne se présenteraient pas souvent. » Victor avait promis de passer dire au revoir au sourcier et à la mort de Sita un peu avant l'aube. À en croire Ishak, les chevaux seraient depuis longtemps dans des stalles de l'écurie, attendant leur maître avec impatience. Les deux révolutionnaires étaient navrés que Richard s'en aille. Mais ils comprenaient ses motivations. Aucun d'eux ne lui avait demandé où il allait, sans doute parce qu'ils étaient un peu gênés de parler d'une femme qu'ils soupçonnaient de ne pas exister. Chaque fois qu'il évoquait son épouse en public, Richard sentait la gêne croissante de ses interlocuteurs. La grande fenêtre de la chambre offrait une vue saisissante sur Bravour qui se dressait au pied de la colline. En baissant au maximum sa lampe, le sourcier pouvait aisément distinguer la grande statue de marbre, éclairée par un cercle de torches fixées dans de grands supports en fer. Un an plus tôt, sur cette colline, Richard avait souvent contemplé de haut le palais de Jagang en cours de construction. Comme le monde avait changé depuis. Parfois, le sourcier se demandait s'il n'avait pas basculé dans un autre univers où toutes les lois et les règles étaient différentes. À moins qu'il soit en train de perdre la raison, comme le pensaient les gens. De sa chambre du rez-de-chaussée, Nietzsche ne pouvait probablement pas voir la statue. Kara, en revanche, devait pouvoir l'admirer tout son sou. Profitait-elle de cette possibilité? Et si c'était le cas, que pensait-elle de la sculpture? Comment la mort de Sid pouvait-elle avoir oublié ce que Bravour représentait pour lui et pour Kalan? Mais elle avait peut-être aussi le sentiment de mener la vie de quelqu'un d'autre, ou de devenir cinglée. Une question demeurait de plus en plus obsédante. Que s'était-il produit pour que tout le monde ait oublié Callan? Jusqu'à son arrivée en ville, Richard avait entretenu le fragile espoir que les habitants d'Alterang se souviendraient d'elle. Au fond, il était possible que seule la mémoire des gens physiquement proches de Callan, le fameux jour, ait été affectée. Cette espérance avait rejoint au rebut toutes celles que Richard avait dû abandonner sur son chemin. Quelle que fût sa cause, le problème se posait à très grande échelle. Le sourcier s'appuya d'une main à la commode, inclina la tête en arrière et ferma les yeux un moment. Son cou et son dos étaient en compote à cause du lourd paquetage et ses mollets devaient être durs comme du bois après une si longue marche. Pendant qu'ils avançaient, Richard et ses deux compagnes avaient à peine échangé 10 mots, tant la randonnée forcée leur demandait d'efforts et de concentration. Ce soir, ne pas être obligé de marcher était une fête pour le petit-fils de Zed. Mais quand il fermait les yeux, d'interminables forêts verdoyantes défilaient dans sa tête. Lorsqu'il avait les paupières baissées, il aurait juré que ses pieds continuaient à fouler le sol humide de la forêt. Tout en bâillant à s'en décrocher la mâchoire, le sourcier retira son baudrier et posa l'épée de vérité contre une chaise. Puis il enleva sa chemise et la jeta sur le lit. Il aurait été judicieux de laver une partie de ses vêtements, mais ce soir le seigneur Hall était bien trop fatigué pour ça. Après ses ablutions vespérales, il avait bien l'intention de s'endormir comme une masse. Tout en se débarbouillant avec un morceau de tissu trempé dans l'eau savonneuse, Richard revint se camper devant la fenêtre. À part le chant des cigales, la nuit était d'un calme surnaturel. Mais ce n'était pas ça qui intéressait l'occupant de la chambre. Alors qu'il admirait de nouveau bravoure sa ressemblance avec Callan, ou plutôt avec les qualités physiques et morales qui en faisaient un être exceptionnel, l'émut au point que des larmes lui montèrent aux yeux. Il dut faire un effort pour ne pas penser aux horreurs qu'affrontait peut-être sa bien-aimée. Quand il se laissait aller à l'imaginer en train de souffrir, sa respiration se bloquait comme lorsqu'il avait un carreau fiché dans la poitrine. Pour se calmer, il se remémora le sourire de Callan. Puis il rêva tout éveillé à ses yeux verts, à ses bras tendres et chauds, aux petits soupirs qu'elle poussait lorsqu'il l'embrassait. Bon sang, il devait la trouver. Et il plongea le morceau de tissu dans la bassine, l'essora, vit l'eau se troubler un peu et s'aperçut que ses mains tremblaient. Il fallait qu'il retrouve Callan. Pour essayer de penser quelques instants à autre chose, le sourcier baissa les yeux sur la cuvette, puis il regarda autour de lui et trouva que la chambre, bien que petite, était correctement équipée et décorée. La literie semblait également de qualité, un bon point de plus. Décidément, Ishak avait fait de l'excellent travail, comme toujours. Soudain, l'eau de la cuvette trembla légèrement, comme si une impossible brise était venue la caresser. Richard se pétrifia, le regard braqué sur l'eau. Brusquement, la surface jusque la plane se hérissa de crêtes symétriques. On eût presque dit la fourrure dressée d'un chat pris de folie furieuse. Puis, le bâtiment tout entier trembla sur ses fondations, comme si un projectile géant venait de le percuter. Une des vitres de la fenêtre se fissura et explosa. Dans le même temps, à l'autre bout du bâtiment, du bois se brisa avec un bruit sourd. Richard tenta en vain d'identifier ce son. Et il supposa qu'un grand arbre s'était écroulé quelque part, mais se souvint très vite qu'il n'y en avait pas dans les environs. Le son se répéta, plus fort cette fois, et plus proche. Le bâtiment trembla, à croire qu'une main géante le secouait. Richard leva les yeux comme s'il redoutait que le plafond s'écroule. Une troisième onde de choc fit de nouveau vibrer l'auberge. Le bruit évoquait toujours celui du bois brisé, mais là on eût cru que la branche ou le tronc criait de douleur tandis qu'on les cassait en deux. Le phénomène se reproduisit, toujours plus puissant et plus proche. Richard s'accroupit et posa une main sur le sol pour assurer son équilibre, tandis que le plancher tanguait comme le pont d'un bateau. La dévastation qui avait commencé à l'autre bout de l'auberge approchait à toute allure. Le vacarme devenait infernal. Du bois se brisa encore et le bâtiment fut secoué comme par un tremblement de terre. L'eau déborda de la cuvette et les craquements sinistres devinrent un concert ininterrompu. Soudain, La cloison qui séparait la chambre de Richard de celle de Kara explosa dans un nuage de poussière, de sueur et d'échardes de bois. Une grande silhouette noire, presque de la largeur de la pièce, franchit l'ouverture dans un tourbillon de débris et de gravats. L'onde de choc arracha la porte de ses gonds et désintégra les meneaux de la fenêtre et sa seule vitre encore intacte. Deux gros éclats de bois volèrent dans les airs. L'un vint pulvériser la chaise contre laquelle reposait l'arme de Richard. Un autre se ficha dans le mur du fond. L'épée de vérité tomba sur le sol et glissa hors de portée de son détenteur. La jambe percutée par un des débris volants, le sourcier dut s'appuyer sur un genou pour ne pas perdre l'équilibre. Les ténèbres mouvantes propulsaient des débris devant elle, occultaient inexorablement la lumière et plongeaient la scène de cauchemar dans une pénombre surnaturelle. Le sang de Richard se glaça dans ses veines. Lorsqu'il réussit à se relever au prix d'un formidable effort, il vit son souffle se transformer en buée devant lui. Comme si elles étaient l'incarnation de la mort en personne, les ténèbres bondirent sur lui. Lorsqu'il prit une grande inspiration, Richard eut l'impression que l'air glacé lui déchiquetait les poumons, comme s'il avait inhalé des milliers de minuscules aiguilles. Le choc lui coupa un moment le souffle. Il marchait sur une corde raide, et il suffirait d'un rien pour qu'il bascule d'un côté ou de l'autre. À sa droite, Dame la Mort, à sa gauche, Princesse la Vie, et tout tiendrait à un rien. Mobilisant toutes ses forces, il sauta vers la fenêtre comme s'il voulait plonger dans un trou d'eau au milieu d'un étang gelé. Quand il frôla la masse informe d'obscurité, le froid qui s'en dégageait était si intense qu'il lui brûla la peau. Alors qu'il franchissait la fenêtre, apparemment promis à une chute très dangereuse, il parvint à s'accrocher de la main gauche au cadre en bois. Il le serra comme une planche de salut et crut que son épaule ne résisterait pas quand son vol fut brutalement interrompu. Freiné alors qu'il filait vers le bas à une vitesse folle, il alla percuter la façade de l'auberge. Le souffle coupé par la violence de l'impact, il resta suspendu dans le vide par une main. L'air humide, après le grand bol d'échardes de glace, se révéla particulièrement difficile à inspirer. Alors qu'il haletait, Richard aperçut dans le lointain la statue éclairée par un cercle de torches. La tête levée vers le ciel, les poings sur les hanches et le dos arqué, bravoure était l'image même de la résistance obstinée à toutes les forces maléfiques. La voir aida Richard à recouvrer son souffle. Face à tant de courage, on se sentait pousser des ailes. Deux appendices dont il aurait eu bien besoin dans sa situation. Du bout des pieds, il chercha des prises et n'en trouva pas. L'auberge étant construite à flanc de colline, le gouffre de ce côté-ci était largement assez vertigineux pour qu'il se brise le cou. Cela dit, son épaule semblait sur le point de se déchirer comme une banale feuille de parchemin. Il devait agir, mais ce lâcher ne lui disait rien car il aurait au minimum les deux jambes cassées après un atterrissage sans douceur. Un son terrifiant retentit dans la chambre que Richard venait de quitter d'une manière si peu conventionnelle. Tous les nerfs vrillés par ce bruit ignoble, le sourcier eut soudain peur que le voile qui séparait le royaume des morts du monde des vivants se soit finalement déchiré pour céder le passage aux gardiens. Le son, qui était peut-être un hurlement tout compte fait, s'acheva sur une note étranglée qui semblait sortir de la gorge même de la haine. Comme si ce sentiment dévastateur avait pu venir au monde et s'y faire chair. Richard faillit lâcher l'encadrement de la fenêtre. La chute valait sans doute mieux que d'affronter le monstre noir qui sortait à présent de la chambre. Une masse informe et sans réelle substance suintait de la fenêtre, comme une humeur visqueuse empoisonnée. Même si la créature, telle qu'elle se présentait, était impossible à identifier, Richard comprit qu'il s'agissait d'un fléau comparable à la mort en personne. Une force destructrice que rien d'humain ne pouvait arrêter. Mais alors qu'elle arrivait à l'air libre, la masse ténébreuse se divisa en des milliers de petites silhouettes floues qui s'éparpillèrent dans toutes les directions. L'obscurité maléfique disparut, avalée par une nuit sans étoiles encore plus sombre qu'elle. Pas dupe de la manœuvre, Richard serra les dents, certain que la créature allait bientôt se reconstituer devant lui et le déchiqueter. Un silence surnaturel régnait sur la colline. Même les cigales s'étaient tues. Richard vivait ses dernières secondes, il en était sûr. Un si long chemin pour finir ainsi, presque ridiculement. Tout à coup, les cigales recommencèrent à chanter. « Seigneur Hall !» cria un homme en bas. « Tenez bon !» Portant un chapeau à bord étroit semblable à celui d'Ishak, le type était en train de contourner le bâtiment pour atteindre la porte d'entrée. Hélas, Richard doutait de pouvoir rester suspendu ainsi jusqu'à ce que quelqu'un arrive pour l'aider. Grognant de douleur, il parvint à se retourner, à lancer vers le haut son bras libre et à fermer les doigts sur le rebord de la fenêtre. Dès qu'elle fut un peu soulagée de sa charge, son épaule gauche lui fit moins mal, un signe qu'il trouva encourageant. Il se hissa jusqu'à la fenêtre et commençait d'y passer le haut du corps lorsque des gens entrèrent dans la chambre. La lanterne ayant disparu, probablement sous une montagne de gravats, le sourcier ne reconnut pas les sauveteurs. Trébuchant sur les débris, ces braves gens parvinrent quand même à gagner la fenêtre. Des mains puissantes se glissèrent sous les aisselles de Richard et l'aidèrent à s'arracher au vide. D'autres mains le saisirent par le ceinturon pour contribuer au processus. Quand il fut à l'intérieur et de nouveau sur ses deux jambes, Richard vacilla un peu. Après un tel choc, il n'était pas facile de tenir debout dans une pièce obscure. « Vous l'avez vu ?» demanda-t-il, le souffle encore très court. « Avez-vous vu la créature qui est sortie par la fenêtre ?» Alors que leurs compagnons tous sautaient, la gorge irritée par la poussière, quelques hommes répondirent qu'ils n'avaient rien vu du tout. Trois sauveteurs arrivèrent avec des lanternes qui permirent à Richard de mesurer l'ampleur des dégâts. La chambre n'était plus qu'un champ de débris et de gravats. Profitant de la lumière, le sourcier examina le trou rond dans le mur de séparation entre sa chambre et celle de Kara. L'orientation des étais de bois brisés indiquait clairement d'où venait l'intrus. Pour Richard, ce n'était pas une surprise, juste une confirmation. En revanche, la taille de l'orifice avait de quoi surprendre puisqu'il occupait presque toute la surface du mur. Si elle était si grosse, comment la créature avait-elle pu passer par la fenêtre? Dès qu'il eut repéré son arme, le sourcier alla la récupérer et la posa contre le mur encore intact du côté fenêtre de la pièce. S'il avait besoin de l'épée, c'était le meilleur endroit possible. Mais que pouvait une lame, même magique, contre des ténèbres mouvantes? Regardant autour de lui, Richard constata que tous ses sauveteurs étaient comme lui couverts d'une poussière blanche. On eût dit une assemblée de fantômes au cœur d'une nuit sans lune. N'était qu'un de ces spectres, en l'occurrence lui, saignait d'une multitude de coupures plus ou moins larges et profondes. Craignant qu'il y ait d'autres victimes, Richard prit sa lanterne à un sauveteur et approcha de la cloison démolie. Ce qu'il découvrit ne le surprit pas vraiment puisqu'il avait entendu le bruit correspondant au phénomène. Jusqu'au fond du bâtiment, toutes les cloisons étaient aux trois quarts détruites. Bien entendu, le trou était chaque fois identique au premier qu'avait vu Richard. Tout au bout de l'auberge, le mur porteur lui aussi avait été pulvérisé. Sous le regard des hommes stupéfiés par ce qui venait d'arriver, Richard avança d'un pas hésitant. Avec tous ces débris, on risquait de se tordre une cheville à chaque enjambée, et repéra enfin Kara, debout au milieu de sa chambre, le regard braqué sur l'enfilade de cloisons éventrées. Tournant le dos à son seigneur, la mort de Sith était en position défensive, la main droite serrant son agiel. Une flamme magique dansant au-dessus de sa paume, Nietzsche entra dans la chambre du sourcier.
« Richard, ça va ? »
cria-t-elle.
« Je crois.
Si mon épaule consent à rester accrochée à moi, je m'en serais sorti à bon compte. » Non sans égrener à voix basse un chapelet de jurons, car elle aussi trébuchait sans cesse, Nietzsche rejoignit son ami assez rapidement.
« Une idée de ce qui s'est passé ?» demanda un homme.
« Pas vraiment, » éluda Richard. « Il y a des blessés ?»
Les sauveteurs se regardèrent, puis deux ou trois annoncèrent que tout le monde semblait être là. Et par bonheur, les autres chambres de l'étage étaient vides cette nuit-là.
« Kara, » demanda Richard, « tu vas bien aussi ?»
La mort de Sith ne répondit pas et ne bougea pas d'un pouce.
Très inquiet, Richard avança plus vite. Pour limiter les risques de chute, il se retint aux poutres désormais apparentes du plafond. Cette chambre était aussi dévastée que la sienne, voire plus puisque les deux cloisons avaient quasiment disparu. Les vitres de la fenêtre étaient brisées, mais la porte ici tenait encore en place par quelques gonds. Kara était debout face au centre des deux orifices, l'œil du cyclone, un peu plus près de la cloison de la chambre du sorcier. Comme toujours, elle avait eu le réflexe de protéger son seigneur. À première vue, son uniforme en cuir l'avait préservé des coupures. Quand Nietzsche arriva près de Richard, elle se retint à son bras afin de recouvrer son équilibre.
« Kara ?»
demanda-t-elle en levant le bras pour que sa flamme de paume éclaire le visage de la mort de Sith. Richard fit de même avec sa lanterne. Les yeux écarquillés, Kara regardait dans le lointain un spectacle qu'elle était la seule à voir. Des larmes avaient laissé des sillons sur ses joues couvertes de poussière et elle tremblait de tous ses membres, assez doucement pour qu'on ne le remarque pas de loin. Richard posa une main sur le poignet de sa protectrice et la retira comme s'il s'était brûlé. La peau de la mort de Sith était glacée. Kara, tu nous entends ? Nietzsche tapota l'épaule de la mort de Sith et recula choqué.
Elle est dure comme du marbre.
Kara ne broncha pas, comme si elle s'était pour de bon transformée en statue. À la lumière de sa flamme de paume, Nietzsche crut voir que la mort de Sith avait la peau bleue, comme si elle était cyanosée, mais avec toute cette poussière blanche, c'était difficile à dire. Richard passa un bras autour de la taille de Kara et eut l'impression d'enlacer un bloc de glace. D'instinct, il l'aurait lâché, mais il refusa de s'autoriser cette trahison. Cela dit, avec son épaule douloureuse, il ne pensait pas pouvoir soulever seul son ami pour la porter ailleurs. « Quelqu'un peut m'aider ? » demanda-t-il en tournant la tête vers ses sauveteurs. Des hommes approchèrent, soulevant un nouveau nuage de poussière blanche. Comme ils avaient des lanternes, Nietzsche éteignit sa flamme de paume. Puis elle saisit le visage de Kara entre ses mains et recula en criant de terreur. Alors qu'elle se prenait les pieds dans les gravats, Richard la retint par un bras, l'empêchant de s'étaler de tout son long.
« Par les esprits du bien !»
souffla l'ancienne maîtresse de la mort.
« Que se passe-t-il »
demanda Richard.
« Elle agonise !»
dit Nietzsche, le souffle court, comme si elle venait de recevoir un coup de poing dans le ventre.
« Sortons-la d'ici !» lança le sorcier.
« Oui, en bas, dans ma chambre !»
Sans réfléchir, Richard voulut soulever Kara de terre. Le voyant grimacer de douleur, deux hommes vinrent l'aider.
« Créateur bien-aimé !»
s'écria l'un d'eux.
« Elle est pétrifiée et glacée comme le cœur du gardien !»« Allons !»
grogna Richard.
« Aidez-moi à la porter dans l'escalier !»
À trois, l'opération ne fut pas trop compliquée. D'un coup de pied, un des sauveteurs fit sauter la porte de ses gonds, facilitant la tâche à ses compagnons. Dans l'escalier étroit, Richard se chargea de tenir Kara par les épaules et les deux hommes s'occupèrent de ses jambes. En bas, Nietzsche guida le petit groupe jusqu'à sa chambre et demanda qu'on dépose la mort de Sith sur le lit. Dès que ce fut fait, elle l'enveloppa dans toutes les couvertures disponibles. Les beaux yeux bleus de Kara regardaient toujours le vide fixement. De temps en temps, une larme perlait à ses paupières et elle n'avait pas cessé de trembler. Richard tenta d'ouvrir les doigts de sa protectrice afin qu'elle lâche son agiel. Comme il ne réussit pas, il serra les dents pour encaisser la douleur et tira sur l'arme magique jusqu'à ce qu'elle pende librement au bout de sa chaîne d'argent.
« Si vous alliez tous attendre dehors, »
dit calmement Nietzsche.
« J'ai besoin de temps et de tranquillité pour déterminer ce que je dois faire. »
Les hommes sortirent, annonçant qu'ils allaient monter la garde devant l'auberge ou patrouiller autour.
« Si cette créature revient, » dit Richard, « n'essayez pas de l'arrêter, venez me chercher. »« Quelle créature, seigneur Hall ?»
demanda un des hommes.
« Que sommes-nous censés guetter ?»«
Je n'en sais trop rien. Je n'ai vu qu'une ombre immense au moment de l'intrusion, puis après, quand cette entité est sortie par la fenêtre. »
« Si ce monstre a dû forer un trou pareil dans la cloison, comment a-t-il pu passer par la fenêtre ?»
demanda l'homme.
« Je donnerais cher pour le savoir, »
avoua Richard.
Je n'ai pas eu le temps de bien regarder cette chose. »
Le sauveteur leva les yeux comme s'il pouvait voir le désastre à travers le plafond.
« Nous ouvrirons l'œil et le bon, » dit-il. « Vous pouvez en être certain. »
À cet instant, Richard se souvint qu'il avait laissé son arme dans la chambre ravagée. Il n'aimait pas être sans son épée, mais quitter le chevet de Kara lui déplaisait au plus haut point. Quand le dernier homme fut sorti, Nietzsche s'assit au bord du lit et posa une main sur le front de Kara. Richard vint s'agenouiller près de son ami.
« Où est le problème, selon toi ?»«
Je n'en sais rien. »«
Mais tu peux l'aider à se remettre. »
Nietzsche prit un long moment avant de répondre.
« Je l'ignore. Bien sûr, je ferai tout mon possible. »
Richard prit la main toujours glacée et tremblante de Kara.
« On ne pourrait pas lui fermer les yeux. Elle n'a plus battu des paupières depuis que nous l'avons retrouvée. »
« Bonne idée. Je crois que c'est la poussière qui l'a fait pleurer. »
Nietzsche ferma délicatement les yeux de la mort de Sith. Pour une raison qui le dépassait, Richard fut soulagé que sa protectrice ne regarde plus dans le vide. Nietzsche reposa une main sur le front de la mort de Sith et lui plaqua l'autre sur la poitrine. Tandis qu'elle examinait sa patiente, Richard alla verser de l'eau dans la cuvette dont toutes les chambres étaient équipées, puis il revint avec un morceau de tissu imbibé d'eau. Il lava le visage de Kara et dépoussiéra tant bien que mal ses cheveux. Les joues de la mort de Sith étaient froides comme la mort. Comment pouvait-elle être gelée ainsi par un temps chaud et humide? Soudain, le sorcier se souvint. Au moment où la créature noire était entrée dans sa chambre, l'air était devenu tout à coup glacial et il avait frissonné de froid lorsqu'il était passé tout près du monstre.
« Tu ne sais vraiment pas ce qu'elle a ?»
demanda-t-il à Nietzsche. Les mains sur les tempes de la mort de Sith, l'ancienne maîtresse de la mort secoua distraitement la tête.
« Rien à me dire non plus sur la créature qui traverse les murs ?»«
Pardon ?»«
Qui nous a attaqués ? Quel monstre a joué les passe-murailles ?»
Nietzsche parut agacé par ces questions.
« Richard, va attendre dehors, je t'en prie.
Je préférerais rester près de Kara. »
Nietzsche saisit le poignet du sorcier et lui souleva doucement la main afin qu'il lâche celle de la mort de Sith.
« Tu me déconcentres. S'il te plaît, laisse-moi agir seul. Ce sera plus facile si tu ne me regardes pas. »
Ce sentir surnuméraire déplut à Richard, mais il fit contre mauvaise fortune bon cœur.
« Si ça peut aider Kara. »
« Ça l'aidera, crois-moi. »
Richard se leva, mais ne sortit pas tout de suite.
« Dehors !»
murmura Nietzsche tout en glissant une main sous le dos de Kara.
« La créature sombre était froide, » dit Richard.
« Froide ?»
« Tellement que mon souffle se transformait en nuage de buée. Lorsque je l'ai frôlé, j'ai frissonné comme en plein hiver. »
« Merci pour l'information. Dès que ce sera possible, je viendrai te donner de ces nouvelles, c'est juré. »
Peu habitué à se sentir impuissant, Richard resta un moment debout sur le seuil de la porte. La poitrine de Kara se soulevait à peine, comme si sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Nietzsche lutterait jusqu'au bout, mais rien ne disait qu'elle triompherait. Richard avait l'affreuse intuition de savoir ce qui était arrivé à Kara. Si absurde que ça puisse paraître, il craignait qu'elle ait été touchée par la mort elle-même.